Ce soir, nous parlons de paix. Pourquoi ? Parce que l'Évangile est un message de paix. Quiconque reçoit ce message connaît la paix intérieure, la tranquillité d'esprit, le repos du cœur. Et je commencerai par poser une première question. Avez-vous cette paix dans votre cœur, cette paix d'en haut ? Cette tranquillité d'en haut, la Bible nous fait savoir que la paix n'est pas une affaire de la terre. Vous pourriez courir le monde à la recherche de la paix, en voulant l'acheter à tout prix. Personne ne vous la vendrait. Et cette paix que peut nous vendre le pharmacien, par exemple, n'est certainement pas la paix dont il sera question ce soir. Ce repos intérieur, cette tranquillité d'esprit. Et nous introduisons cette première conférence par une lecture au psaume 107e. Nous lisons à partir du verset 10. Jusqu'au verset 22e. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé le conseil du Très-Haut. Il humilia leur cœur par la souffrance. Ils succombèrent et personne ne les secourut. Dans leur détresse, il y a peut-être ici un homme, une femme qui connaît une détresse cachée, que personne ne sait, dont personne ne s'est aperçu. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il les délivra de leurs angoisses. Il les fit sortir des ténèbres et de l'ombre de la mort. Il rompit leurs liens, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, car il a brisé les portes des reins. Il a rompu les verrous de fer. Les insensés, qui sont-ils ceux-là ? Ce ne sont pas ceux qu'on a internés, parce qu'ils ont perdu la raison. La Bible dit que l'insensé est celui qui veut faire la route de la vie sans Dieu. Oh, le diagnostic, le verdict de Dieu concernant l'homme d'aujourd'hui, comme ce fut le cas pour l'homme d'hier et le suivant. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Les insensés, ce sont donc ceux et celles qui pensent pouvoir se passer de Dieu dans cette existence. Ils s'en passeront dans l'autre, bien entendu. Ceci est dans les Saintes Écritures. J'ai été un insensé jusqu'à l'âge de 18 ans. En ayant cru que Dieu pouvait ne pas exister. Jusqu'à l'âge de 18 ans, j'ai cheminé comme si Dieu n'existait pas. Et c'est peut-être votre expérience. Voilà qui est insensé aux yeux de Dieu. Les insensés, donc, par leur conduite coupable et par leur péché, s'étaient rendus malheureux. Un insensé, c'est celui qui vit dans ses péchés, dans sa révolte. Et ceci nous rend malheureux, dit la Bible. Leur âme avait en horreur toute nourriture. Que dirait un psychologue parmi nous ce soir ? État dépressif, bien entendu, avec anorexie mentale. On ne veut plus rien manger. Leur âme avait en horreur toute nourriture, et ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivra de leurs angoisses. Il envoya sa parole et il les guérit. De quoi ? De leurs angoisses, de leurs anxiétés, de leurs tourments. Il les fit échapper de la fosse, qu'il loue l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme, qu'ils offrent des sacrifices d'action de grâce et qu'ils publient ses œuvres avec des cris de joie. Voilà comment on passe de ces états intérieurs de tourment et d'angoisse aux cris de joie. À ces textes, nous en ajoutons un autre se situant dans l'Évangile selon Jean, du Christ lui-même, au chapitre 14 et au verset 27, un texte bien connu. Un message de paix que le Christ nous adresse à tous comme à chacun, chacune. En ces termes, je vous laisse la paix. Qu'il est bon d'entendre ce genre de paroles. Je vous donne ma paix, pas n'importe quelle paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Le monde ne sachant pas donner, n'est-ce pas ? Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Vous auriez comme une envie de me dire, mais ce message n'est pas pour notre génération. Pour l'homme de notre génération qui ne cesse d'être angoissé, tourmenté dans ce siècle difficile à vivre, dans ce siècle qui ne cesse de nous charger de problèmes, de crises. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Voulant signifier par là que la vraie paix n'est pas une affaire de la terre. C'est la paix de Christ. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Une question, lequel d'entre nous peut dire ce soir ici qu'un tel message ne le concerne pas du tout ? Je peux vous dire que ce message me concerne. Et ce message me fait du bien toutes les fois où je l'ai sous les yeux, toutes les fois où je me le rappelle en voiture, à pied, au bureau, où que ce soit. Un message de paix. Personne n'a jamais parlé de paix comme Christ en a parlé. Et seul Christ peut réellement inonder votre cœur de sa paix. À lui, la Bible nous faisant savoir que le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Je ne sais dans quelles dispositions intérieures vous êtes entrés dans ce lieu ce soir. Mais je sais que vous pourriez quitter la place avec le cœur rempli de cette paix céleste du Seigneur, et ce gratuitement. Vous n'avez rien à payer. La Bible dit que le châtiment qui nous donne la paix, le Christ l'a payé à notre place sur la croix du calvaire, s'étant offert en sacrifice pour nos péchés. Bien sûr que quand on parle de paix, au sein d'un monde angoissé, on est en droit de se poser la question, mais cet ami qui nous vient de Paris vit-il dans un autre univers ? Mais je peux vous dire que nous avons des problèmes. Nous avons couramment des problèmes. Des questions que nous nous posons aussi. Nous passons par des temps de crise. Mais quelle bénédiction que de pouvoir traverser ces temps de crise, ces problèmes et ces temps de tempête parfois, avec au cœur cette paix d'en haut qui nous garde un moral d'acier, qui nous donne constamment d'espérer en celui qui n'a jamais dit quoi que ce soit pour nous tromper, et qui s'est présenté à nous comme étant la vérité de Dieu incarnée parmi les hommes. La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur, Dieu seul pour vrai. Et le Christ s'est présenté aux hommes de la façon que vous savez, je suis la vérité. C'est lui qui nous a adressé ce message de paix. Savez-vous à quel moment de son existence le Christ a parlé le plus de paix ? À quelques heures de son arrestation, à quelques heures de cette abominable croix qui allait le crucifier entre ciel et terre, il a trouvé le moyen de parler de paix. Il a dit encore en Jean, chapitre 16, verset 33. J'ai dit ces choses dans le monde afin que vous ayez la paix en moi. Quand nous traitons de ce sujet-là, nous sommes persuadés d'être dans le mille. Parce que l'homme a besoin de paix de nos jours. Oh, certes, l'homme parle de paix. Il y a des conférences sur la paix qui se réunissent, mais où est-elle réellement, cette paix dont il est souvent question aujourd'hui? Nos journaux nous entretiennent de paix, les médias sans cesse parlent de paix, mais cette paix, où est-elle? Oh, la Bible dit que nous avons besoin, chacun, chacune, de recevoir la paix de Dieu avant de pouvoir en parler à d'autres. Par un jour de grande manifestation à Paris, un collègue évangéliste s'était approché d'un homme qui manifestait pour la paix à une extrémité du monde. Il s'est approché de lui pour lui dire « Monsieur, vous manifestez pourquoi ?»« Pour la paix, là-bas, à cette extrémité du monde, c'est absolument impensable ce qui s'y passe. » Alors cet évangéliste de poursuivre « Monsieur, y a-t-il la paix dans votre foyer ?»« Je ne comprends pas votre question, je manifeste pour la paix à une extrémité du monde. » Non, mais je vous demande si la paix est chez vous, entre vous et votre épouse, entre vous et vos enfants. Je vous demande si la paix est dans votre cœur. Sinon, vous essayez de donner aux autres une paix que vous n'avez pas vous-même. Bien aimé ça, hein ? Et c'est tellement souvent le cas. Tellement souvent le cas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que notre terre tout entière verse dans la peur. Aujourd'hui, comme dans l'angoisse. Un éminent penseur français, un philosophe de l'existence, Jean-Paul Sartre, dans une conférence qu'il a intitulée « L'existentialisme est un humanisme », a dit ce qui suit « L'angoisse est tapie au fond de chacun de nous ». C'est vrai ça. S'il a dit quelque chose de vrai, c'est qu'il l'avait expérimenté. Et il y a en chaque cerveau, a-t-il ajouté encore un bleu, une meurtrissure qui n'est autre que la terreur même au repos. J'ai été stupéfait en apprenant qu'en France, nous consommons par année, justement par manque de paix, hein, quelques 150 millions de boîtes de tranquillisants, de neuroleptiques, etc., de tout ce que vous voulez. Les industries pharmaceutiques font aujourd'hui fortune en raison de ces grands climats d'angoisse que nous connaissons. Pierre Dacot, un éminent psychologue du moment, dont j'ai au moins deux livres à la maison, a écrit ce qui suit « Tout être intelligent ne peut faire autrement aujourd'hui que d'être et de vivre angoissé ». Nous pourrions alors nous poser la question de savoir si on nous a voulu sur cette terre pour vivre angoissés. Certainement pas. Lequel d'entre nous, une fois ou l'autre, n'a pas éprouvé ce sentiment de panique intérieure en face de la vie, de l'avenir, du passé? Ce sentiment de panique, littéralement, en pensant à la mort. Ce sentiment de panique qui est beaucoup plus que l'inquiétude superficielle et qui peut aller jusqu'à provoquer des spasmes respiratoires, des palpitations, qui peut aller jusqu'à nous mettre une boule dans la gorge, nous serrer au ventre et nous étrangler au cœur. Autant d'expressions qui reviennent surtout dans le courrier de la radio. Pourquoi cette peur ici, là, hein, qui nous serre au cœur, qui nous serre au ventre et qu'on ne comprend pas? Parce que très souvent, l'angoisse est inexpliquée. Un éminent philosophe un jour dit ce qui suit. L'angoisse, c'est la peur de rien. Au fond, on ne sait pas de quoi on a peur, mais on a peur. On a peur de vivre et on a peur de mourir. Certains, bien sûr, tentent de noyer leur angoisse dans l'alcool, dans la drogue, ou bien encore dans une vie exagérément active pour oublier. Oublier quoi ? Ce qui a été vécu. Mais c'est manifestement là une preuve d'échec considérable. Mais quelle triste vie, et nous n'accusons personne parce que ça a été mon cas. Et c'est le cas de l'homme en général, où qu'il vive. Mais quelle triste existence qui consiste à vouloir oublier ce qui vient d'être vécu. C'est que ce que nous avons vécu a été mal vécu. Sinon, on ne chercherait pas à oublier. Mais hélas, le rhumatisme revient quand l'ivresse est passée. Le rhumatisme revient quand l'ivresse est passée. Et nous n'en sortons pas de nos angoisses qui nous reviennent la plupart du temps avec toujours plus d'acuité. Et ces angoisses, pour finir, souvent, nous font verser dans ce qu'il est convenu d'appeler la sorcière noire. La déprime, la dépression, l'effondrement psychologique. Je ne veux pas ici réveiller chez quelques-uns peut-être des souvenirs pénibles, tel n'est pas mon but, certainement pas. Mais je puis dire que très souvent, nous en arrivons à ces situations-là simplement que nous n'arrivons pas à nous sortir de nos angoisses qui nous tenaillent, de nos soucis qui nous pèsent et nous blessent intérieurement, de nos fardeaux impossibles à porter. Il y a peut-être ici quelqu'un qui ne peut plus continuer de porter ce qu'il porte. Il suffit souvent de gratter quelque peu dans l'existence de l'homme de notre génération, pour se rendre compte que très souvent ce qui paraît est un masque. Il y a peu de temps, à vouloir simplement gratter un tout petit peu à la suite d'une rencontre comme celle-ci, avec une personne, ce fut l'effondrement dans les larmes. Que de fardeaux l'homme d'aujourd'hui porte-t-il de façon cachée ? Je peux vous dire que si vous portiez des fardeaux impossibles, vous pourriez ce soir venir les déposer aux pieds de celui qui les a pris à votre place sur la croix et que la Bible appelle le Christ. La Bible a parlé de l'angoisse comme d'un signe des temps. Et il semble que nous soyons en plein aujourd'hui dans ce signe. À rappeler les chiffres émanant d'organismes sérieux à propos d'angoisse, d'anxiété, on peut être littéralement effaré. Le monde verse littéralement dans l'angoisse. J'ai su il y a peu de temps qu'un Français sur deux se dit triste sans raison. Au point qu'une personnalité politique d'un précédent gouvernement a dit ce qui suit, les Français sont atteints de cette nouvelle maladie qu'il est convenu d'appeler la sinistrose. Est-ce que vous la connaissez ici, la sinistrose ? Tellement triste qu'on en devient sinistre ! Mais personne n'est accusé, vous savez, hein ? Nous nous souvenons qu'un Premier ministre du président Pompidou avait dit « Les Français sont moroses, sinistroses, moroses. » Tout ceci ne nous donne pas de voir la vie en rose. Mais Jésus a dit une parole, c'est la suivante, n'est-ce pas, en Luc 21-25, à propos des derniers temps, il a dit « Il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront plus que faire. » Et nous pensons être rentrés dans ces temps de grande angoisse qui laissent augurer des temps encore plus difficiles sur ce plan-là. Baudelaire écrivit un jour ce qui suit. L'angoisse atroce, despotique, sur mon crâne incliné a planté son drapeau noir. Peut-être que ce drapeau noir est planté sur un crâne peut-être moins incliné que le sien. Parmi nous ce soir, les choses peuvent changer. C'est véritablement la promesse du Seigneur, le message de l'Évangile, un message de paix. Un message de paix. Mais essayons de comprendre l'angoisse. Pourquoi l'angoisse ? Avant d'aller plus loin, je voudrais préciser ce qui suit. Nous ne voulons pas ce soir traiter d'angoisse pouvant résulter de troubles de la santé physique. Il est tout à fait normal qu'une personne atteinte dans sa santé en devienne angoissée, un cardiaque par exemple, est couramment quelqu'un d'angoissé. Parce que son cœur ne fonctionne pas normalement. Nous ne traitons pas de ce genre d'angoisse qui relève de la médecine scientifique. Mais nous traitons d'angoisses qui ont leurs racines ailleurs que dans notre corps, dans notre soma, comme dit la Bible. Nous traitons d'angoisses qui ont leurs racines ailleurs que là. Parce que l'homme n'est pas que de chair et d'eau. L'angoisse, pour comprendre ce qu'elle représente, il faut en venir au grec. Le terme angoissé nous vient dans les Saintes Écritures d'un mot grec, pour ceux qui en ont fait un peu, comme ça a été mon cas il y a bien des années, le mot merimanao, qui signifie littéralement, qui est fait ce terme de deux mots, d'un premier mot, merizo, qui signifie en grec divisé, et le mot nous, qui est en grec toujours une façon de parler de l'esprit de l'homme. Ceci nous éclaire de façon toute, je dirais, extraordinaire sur ce que représente l'angoisse, une division de l'esprit de l'homme. Une division de l'esprit de l'homme, mais ça veut dire quoi ça? Quand l'esprit de l'homme est-il divisé? La réponse est claire, toutes les fois où il y a doute. Et qu'est-ce que le doute? Justement, le doute, c'est cet état d'esprit qui hésite entre l'affirmative et la négative. C'est cet état d'esprit qui hésite entre l'ignorance et la certitude. Or, nous vivons plus que jamais, ceci nos savants, qui ne sont pas chrétiens la plupart du temps l'affirment, plus que jamais le siècle du doute. Un siècle où tout est remis en question depuis nos origines, en passant par l'homme à propos d'une définition à lui donner, à propos de toutes ces valeurs qui ont été des valeurs fondamentales dans le passé et qui étaient tirées des Saintes Écritures, tout est remis en question. Sous prétexte de révolution, sous prétexte de changement, de sorte que nous ne savons plus où donner de la tête. Et puis, encore ces hésitations, pourquoi par exemple appelle-t-on bien ici ce qui est appelé mal là-bas ? Et vice-versa, le doute est absolument partout. Nous le respirons, ce doute, il est dans l'air ambiant. Le doute quant à notre avenir, le doute quant à notre éternité. Est-ce que vous savez où vous allez passer l'éternité ? Et tout ceci nous remplit d'angoisse, de tourment, quand nous y pensons, peut-être le soir, comme disait ce poète grenoblois du nom de Stendhal. Il a un jour écrit ce qui suit : « Je ne sais pas ce qui je suis. » Et c'est ce qui, très souvent le soir, quand j'y pense, me désole. Alors comment avoir une vie heureuse quand nous ne savons pas le pourquoi de notre existence, à quoi nous devons servir, d'où nous venons, où nous allons? Mais ce peut être très angoissant. Un philosophe allemand du nom de Martin Heidegger a dit ce qui suit. L'angoisse, c'est l'homme face au néant. Oui, parce que la plupart du temps, on a tenté d'évacuer Dieu. Mais on n'a pu rien mettre à la place de Dieu, c'est le néant. Et le néant est une affaire terriblement angoissante. Je le dis surtout pour les jeunes qui sont ici et surtout aux études. Alors comment régler le problème de ce doute qui nous tenaille sur tous les plans? Eh bien le doute. À propos du doute, Jésus a dit, « Ah, si vous ne doutiez point, Jésus a dit cela. Si vous ne doutiez point, seulement voilà, on doute. Et le doute, dit la Bible, est issu du malin. C'est lui qui, le premier, a susurré le doute dans l'oreille d'Ève pour la faire chuter avec son mari Adam. Lesquels, bien sûr, comme vous le savez, sont nos premiers parents. Et en semant ainsi le doute, de quelle façon Dieu a-t-il réellement dit? Et aujourd'hui, nous en sommes toujours là. À propos de ceci, à propos de cela, Dieu a-t-il réellement dit? Et même, souvent, Dieu a-t-il un jour parlé? Ce livre est-il sa parole? Tout est donc mis en question et on ne sait plus. Nous sommes littéralement dans des sables mouvants et nous n'en sortirons pas, excepté si nous mettons notre foi dans celui qui alors chasse le doute puisqu'il est la vérité dans sa personne, Jésus-Christ. Très souvent, nous nous posons la question de savoir pourquoi l'homme persiste à poursuivre une route dans son doute, alors qu'il y a autre chose à vivre. La Bible nous éclaire quant à nos origines. Elle nous en dit l'essentiel. La Bible ne se veut pas un livre de science, mais toute vraie science confirme l'Écriture. Nous souvenons de ce qu'a un jour dit Pasteur, n'est-ce pas ? Un peu de science éloigne de Dieu beaucoup, y ramène. C'est tellement vrai. La Bible nous fait savoir que nous avons été créés par Dieu. Nous ne devons pas avoir de doute à cet égard. Nous avons été faits en image de Dieu, imaginez. En image de Dieu. Dans quel but ? Pour être aimé de Dieu et pour l'aimer en retour au plan vertical, pour vivre d'amour avec lui. Au plan horizontal, pour que nous vivions ensemble au plan de la société, pour que nous vivions d'amour. Et c'est tellement vrai que nos savants affirment que c'est à partir du moment où l'individu dans la société a le sentiment de ne plus être aimé que des idées de suicide lui trottent au cerveau. Oh, la Bible nous place sur du roc. Sur du solide, la Bible chasse nos doutes pour mettre dans nos cœurs des certitudes, pour nous donner cette sécurité dont nous avons chacun besoin. Pierre Dacot, que je citais tout à l'heure, a dit « Ce dont l'homme a aujourd'hui le plus besoin, c'est de sécurité. » La Bible parle-t-elle de sécurité ? Revenez dans les soirs qui viennent. On en dira un mot. Alors, il y a peut-être parmi nous des gens qui doutent sur tout. Ils pourraient quitter la place ce soir en ayant des certitudes quant à leur salut, des certitudes quant au présent, quant à l'avenir et quant à l'éternité. Dieu veut que nous ayons ces certitudes dans notre cœur, sinon la vie est impossible, absolument impossible. Un éminent psychologue suisse a dit un jour ce qui suit. L'angoisse chez l'homme d'aujourd'hui, c'est une maladie de sa conscience. Voilà pourquoi, je disais tout à l'heure, nous ne traitons pas d'angoisse résultant de troubles organiques, mais nous traitons des angoisses résultant de troubles de la santé morale et spirituelle. L'angoisse, une maladie de la conscience. J'ai bien aimé ça. Alors j'ai cherché dans ma Bible pour savoir ce que Dieu en disait de l'angoisse. j'ai constaté que des milliers d'années avant le docteur Médère, dont j'ai au moins un livre à la maison, un éminent psychologue suisse, j'ai vu que la Bible avait traité de cette question-là. Nous avons lu le texte au psaume 107e, les insensés, par leur conduite coupable et par leur péché, s'étaient rendus malheureux, le péché source d'angoisse. Leur âme avait en horreur toute nourriture, déprime. Ils touchaient aux portes de la mort. Nos savants nous disent aujourd'hui, d'ailleurs, il y a une émission ce soir sur Europe numéro 1, sur cette grande question, hein. Mais il y a quelques années, il y en a eu une, et j'ai demandé la cassette que j'ai obtenue d'Europe numéro 1. Et les savants s'étaient entendus, enfin étaient tombés d'accord pour dire que le schéma normal d'une dépression conduit à la mort. Ils touchaient aux portes de la mort. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il les délivra de leurs angoisses. C'est une première réponse, tandis qu'en Romains, chapitre 2, verset 9, l'apôtre a écrit ce qui suit: trouble et angoisse sur quiconque pêche. Ah. Alors ils ont de la chance, ceux qui ne pêchent point. Où sont-ils, ceux-là? En tout cas, pas sur la terre. Parce que la Bible dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas un homme, pas un seul qui n'ait pas corrompu sa voie sur cette terre. Tous sont égarés, tous sont passés à côté des plans de vie, de rédemption, d'amour, de joie que Dieu avait conçu pour l'homme. Tous ont manqué la cible, tous ont péché. La Bible dit, l'âme qui pêche est celle qui mourra. La Bible dit encore, le salaire du péché, c'est la mort. Lequel d'entre nous peut dire ce soir qu'il n'a jamais péché? Qu'il n'est pas pécheur comme le reste des hommes? Un jour à Aix-les-Bains, au terme d'une réunion, dans une grande salle de la ville, un homme est venu vers moi pour me dire, Alain Choiquier, pas d'accord avec vous, moi je ne suis pas un pécheur. Bien, très bien, monsieur. Mais si vous n'êtes pas un pécheur, vous n'avez pas besoin de Jésus-Christ. Il n'est pas venu pour vous. Mais examinez-vous vous-même à la lumière de la parole de Dieu et vous verrez que c'est le diagnostic de Dieu, le seul qui soit juste et vrai vous concernant, comme d'ailleurs me concernant. Vous êtes un pécheur même si vous n'en avez pas conscience, même si votre conscience ne vous accuse pas de péché. Comme l'a dit l'apôtre, ce n'est pas parce que ma conscience ne m'accuse de rien que je ne suis pas pécheur, que je n'ai pas péché, que je ne suis pas répréhensible. Oh, la conscience! Vous savez, notre conscience en nous, nous avons chacun une conscience, manifeste l'évidence d'une conscience infinie au-dessus de nous. Nous avons été faits en image de Dieu. Et nous voulons souvent oublier que nous avons une conscience. Cette conscience que nous bousculons. Cette conscience qui veut nous rattraper difficilement sur la pente du mal. Cette conscience que nous ne voulons pas entendre, très souvent, cette conscience qui finit par nous irriter, dont nous ne voulons pas. Oh, Dieu l'a mise en nous comme une sorte de lampe pour faire la lumière sur ce que sont nos actes, nos paroles, nos attitudes, nos comportements. Une sorte de boussole aussi pour nous aider à prendre la bonne direction, mais cette conscience, à force de pécher, à force d'être bousculée, ne tourne plus normalement et elle est dépassée par les événements. Que j'aime rappeler cet événement qui nous est arrivé alors que nous revenions d'un camp de jeunes en Suisse, là-bas, du côté du Valais, à Haute-Nanda, sur la montagne. Nous avions quitté notre camp très tôt le matin, après avoir touché le sol pour constater qu'il n'y avait pas de verglas, mais en descendant de cette station de Haute-Nanda, nous avons été surpris par une plaque de verglas sur plusieurs kilomètres qui nous avait fait virevolter dans notre voiture, quelque chose de tout à fait impressionnant. Je n'avais jamais glissé de cette manière-là sur une plaque de verglas, au point que notre voiture s'était littéralement retournée pour regarder de l'autre côté. Nous pouvions voir les gens qui venaient après nous. Et tantôt vers le ravin, tantôt vers le fossé, quand tout à coup, un gendarme, un policier plutôt suisse, à un tournant, les bras en croix, criant aux automobilistes d'arrêter, de stopper leur voiture. Mais comment stopper nos voitures? Nous ne pouvions pas les stopper. Nous étions partis à glisser et puis les freins ne pouvaient pas marcher. Heureusement que nous avions réussi à rétablir la voiture dans le bon sens. J'ai dû sortir la tête, n'est-ce pas, par la fenêtre pour dire au policier suisse de s'écarter. Je lui disais, mais quittez le milieu de la route. Pour finir, il a glissé, lui aussi. Pour se retrouver sur le bas de la route. La conscience, un policier en nous dépassé par les événements. Qui ne peut plus rien pour nous. Beaucoup d'hommes et de femmes disent... Nous marchons selon notre conscience. Quelle conscience ? Où en est la conscience universelle aujourd'hui, par exemple, comme la conscience individuelle ? Oh, quelqu'un disait à juste titre, et voilà qui explique justement le fait que nous ne pouvons pas être heureux avec une conscience chargée, par exemple, par un passé mal vécu, chargée par un présent difficile, chargé de ses fardeaux, de son péché. Oh, la conscience, disait quelqu'un, elle n'empêche jamais de commettre le péché. La conscience empêche seulement d'en jouir en paix. Et parce que pécheurs, nous ne pouvons pas jouir en paix de notre péché. Avec cette conscience que Dieu nous a donnée, laquelle, même si elle ne tourne pas normalement, nous empêche d'être heureux. Alors, une question. Qui peut guérir une conscience malade de son péché? La Bible dit que votre conscience, la mienne, toutes les consciences sont malades de leur péché. D'où ces angoisses terribles. Vous savez, la question de la paix est une affaire d'hygiène morale et spirituelle. Si le cœur est en mauvais état, si la conscience est chargée de son péché, la Bible dit impossible qu'elle éprouve une quelconque paix vraie, solide et durable. Dieu dit dans sa parole, pas de paix quand on reste dans notre péché. Et c'est à partir du moment où notre péché est réglé, où nos soucis ont été déposés, nos fardeaux, qu'alors la paix peut commencer d'habiter le cœur de l'homme. Et la Bible dit que cette paix-là, c'est la paix du salut. C'est la paix du prince du salut. Au sortir d'ici, peut-être allez-vous vous précipiter vers la première pharmacie pour demander le remède à vos péchés. Vous embarrasseriez votre pharmacien. Vous iriez chez le premier médecin, là, sur la rue. Monsieur, je suis pécheur. Veuillez bien me guérir de mon péché. Vous l'embarrasseriez. Vous iriez vers l'astrologue, vous iriez vers le psychologue, vous iriez vers le psychiatre. Un psychiatre, il y a peu de temps, a dit ce qui suit. Je constate qu'à la racine de tous ces problèmes que j'essaie de résoudre auprès de mes patients, il y a une grande question spirituelle qui se pose. Quand même une déclaration importante. Oui, la Bible dit qu'à la racine de tous nos problèmes, de toutes nos crises, il y a un problème spirituel. Lequel ? La Bible dit ce qui suit. Toutes nos crises, nos fardeaux, nos problèmes résultent de notre séparation d'avec Dieu. Et tant que l'homme n'a pas retrouvé son Dieu, qui est le Dieu de paix, il ne peut pas connaître la paix intérieure. La Bible dit que c'est le péché qui, à l'origine, nous a déstabilisés dans cette situation qui était la nôtre et que Dieu voulait pour chacun d'entre nous. Le péché nous a déstabilisés et il nous déstabilise encore maintenant. Et parce que déstabilisés par notre péché, nous avons besoin d'être restaurés par Dieu. Alors qui peut nous restaurer? Qui peut guérir une conscience malade de son péché? Quelle réponse? Dans la Bible, bien sûr. De la manière suivante. Hébreux 9, 14, écoutez bien. Le sang de Christ, dit la Bible, le sang de Christ guérit nos consciences, purifie nos consciences. Malades dans nos consciences, le sang de Christ nous purifie de tout péché. L'apôtre Jean, pour sa part, dans sa première lettre, a écrit ce qui suit. Le sang de Jésus, le Fils de Dieu, nous purifie de tout péché. Oh, si je n'avais pas pour moi le sang de Jésus-Christ, jamais je ne pourrais me tenir comme je le fais ce soir devant vous. Parce que c'est le sang du Christ qui est ma paix. Quand nous disons le sang du Christ, ceci signifie bien sûr son sacrifice au calvaire sur la croix pour nos péchés. La Bible affirmant Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour vos péchés personnels. Il est mort pour les miens. Il y a peu de temps, avec mon épouse, nous étions en Israël. Nous sommes allés vers cette porte de Damas. Pour ceux qui connaissent, nous sommes passés de l'autre côté. Puis là, le Golgotha, ce lieu du crâne. Et en considérant ce lieu du crâne, en effet, ce lieu-là, ce rocher à la forme d'un crâne, dans mon cœur, j'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, là, ton sang a coulé pour moi. Mais quelle émotion dans mon âme. Le Fils de Dieu ayant porté à ce Golgotha-là les péchés d'Alain Joaquier. Pour l'en guérir à jamais, pour le purifier, pour le sauver. Oh, voulez-vous croire ce soir que le Christ vous guérit dans vos consciences? De votre péché passé, de votre péché présent. Qu'il vous soulage de tous vos fardeaux, de tous vos soucis. J'ai été impressionné par l'étymologie du terme souci. On en a des soucis, hein. Et j'ai découvert que le mot souci nous vient du latin sollicitare, parce que le souci est précisément ce qui nous sollicite, ce qui nous tient. Mais le mot sollicitare, d'où nous vient le mot souci en latin, signifie bousculer, signifie cahoter, signifie presser. Oh, comme ce mot souci tout à coup s'éclaire lui aussi d'un jour tout nouveau. Parce que le souci est ce qui nous presse, est ce qui nous bouscule. C'est ce qui nous cahote, c'est ce qui nous blesse. Oh, l'apôtre Pierre a dit ce qui suit, « Déchargez-vous sur le Christ de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Mais quel bonheur que de pouvoir vider son cœur de tous les péchés qu'il porte, de tous les soucis qu'il porte, de tous les fardeaux qu'il porte. Et tenez-vous bien, de toutes les angoisses qu'il porte. Parce que la Bible dit que si Christ est mort pour nos péchés, elle dit aussi qu'il s'est chargé des angoisses résultant de nos péchés. Quand nous pensons au Christ arrivé, n'est-ce pas, au seuil de son arrestation, à quelques heures de la croix, il a dit ce qui suit, « Mon âme est angoissée jusqu'à la mort. » Mais lui n'avait pas de raison d'être angoissé. Ésaïe 53 nous fait savoir qu'il a été enlevé par l'angoisse. Le Fils de Dieu angoissé. Il n'avait jamais péché, lui. Sa conscience n'a jamais été malade. Il a été rendu semblable à nous en toutes choses, hormis le péché. Et c'est parce qu'il a été sans péché, parce qu'il a été le sauveur du monde et de l'homme en particulier, le Fils de Dieu, Dieu le Fils, qu'il a pu se charger de l'expiation de votre péché personnel en même temps que des miens. Mais alors pourquoi a-t-il été angoissé? Lui qui n'avait jamais connu l'angoisse précédemment. Simplement que la Bible dit que lui qui n'a jamais connu le péché, oh, il a été fait péché pour nous, beaucoup plus que pécheur. Hein. Péché, Dieu l'a traité comme le péché même, sur la croix, parce que couvert de vos péchés, des miens, de ceux du monde entier, et parce que le péché est source d'angoisse considérable, notre bien-aimé Sauveur a été angoissé, il a même été enlevé par l'angoisse. Et le châtiment. Je vous pose la question, pourquoi continuer de porter votre péché personnel quand votre péché personnel, le Christ l'a déjà porté pour vous en débarrasser? Pourquoi continuer de porter nos soucis, nos fardeaux? Moi, je n'accuse personne, parce que je suis bileux de nature. Que de problèmes! Alors je dépose mes fardeaux comme je l'ai fait en venant tout à l'heure dans la voiture. Et puis, une fois mes fardeaux déposés, mon cœur est soulagé, puis 5 minutes après, je les reprends. Alors je suis à me dire, mais pourquoi est-ce que tu continues là de... Oh pardon Seigneur, tu veux que je sois en paix. Ne vous inquiétez de rien, dit la Bible, mais ça n'est pas possible. En face, n'est-ce pas, de factures à rencontrer, en face de notre feuille d'impôt, en face de notre voiture en panne, quand nous connaissons tout ce genre, mais comment ne vous inquiétez de rien. Oh, si nous faisions confiance au Seigneur, nous le verrions agir tous les jours, au milieu de nous, de façon puissante, pour nous venir en aide au niveau de tous ces soucis que nous nous faisons. Lui, le Seigneur, qui nous a dit « Ne vous inquiétez de rien. » Ne vous inquiétez de rien. Faisons-lui confiance, déchargeons notre cœur. On essaie mille et une façons de nous tirer d'affaire. Ah, Victor Hugo, lui, en exil sur une île entre la France et l'Angleterre, avait coutume de se rendre chaque jour au bord de l'eau pour jeter une pierre à la mer. Vous connaissez l'histoire. Une fillette avait observé son manège et avait osé l'approcher un jour pour lui dire « Mais monsieur Hugo, pourquoi venez-vous chaque jour à cet endroit jeter une pierre à la mer ?» Et Victor Hugo de lui répondre, « Non, ma fille, ce ne sont pas des pierres que je jette à l'eau. Ce sont mes propres lamentations, mes soucis, mes fardeaux. » Victor Hugo était tellement pressé par tous les fardeaux qu'il connaissait, les problèmes qu'il rencontrait, qu'il voulait s'en débarrasser en les jetant loin de lui à l'eau. Rien à faire. Ça ne marchait pas parce qu'il devait répéter ce geste tous les jours, hein. Ce n'était pas la solution. On peut tenter mille et une façons de nous décharger. Oh, la Bible dit non. Psaume 55, verset 23. « Jette tes fardeaux sur l'Éternel et il te soutiendra. » 1 Jean 1,9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. » Et pour nous en purifier. Et Jésus a dit en Matthieu 11, 28, cette parole que certainement nous connaissons tous, « Venez à moi. » Jésus a dit cela, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués. » Pourquoi? Qui sait la suite? « Je vous donnerai du repos. » Notez bien que Jésus n'a pas dit en un clin d'œil, tous vos problèmes seront résolus. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vous donnerai du repos, mais que nous avons besoin de cette paix intérieure, de ce repos-là, pour envisager nos problèmes différemment, avec ce recul nécessaire du repos intérieur et de la paix intérieure. Est-ce que vous allez rentrer chez vous, comme vous êtes venu ici ce soir? Oh, je ne peux pas le penser. Et si je vous parle de cette manière-là, c'est que constamment moi-même, j'ai besoin du Seigneur pour lui décharger mon cœur à ses pieds et pour être soulagé dans mon âme et connaître sa paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix que nous ne pouvons pas comprendre, mais la Bible, je terminerai avec cela. La Bible dit que c'est quand l'homme a reçu le pardon de ses péchés. Ah bon, est-ce que c'est possible? Bien sûr. Nous recevons le pardon de nos péchés quand nous confessons nos péchés, nous venons de le lire, et quand nous croyons que le sang du Christ nous en purifie. Alors nous venons au Christ dans la repentance, confessant nos péchés. Voilà la seule manière d'éliminer ce péché qui nous pèse, en même temps que tous ces fardeaux qui nous chargent. Et c'est quand nous avons retrouvé une conscience pure, nette, limpide, que la vraie vie commence. Alors je vous pose la question, qu'en est-il quand vous repensez au passé? Moi, quand je pense à mon passé, j'en frémis. Mais je sais qu'il est gommé, effacé, et que le Seigneur ne s'en souvient plus. Quand je pense à mon présent, parce que tout enfant de Dieu qu'on peut être, on a des passages difficiles. Je sais qu'il est gommé. Et le soir, quelle bénédiction que de pouvoir s'endormir dans les bras du Seigneur, dans sa paix. Pour ce qui est de l'avenir, en paix toujours. Pourquoi? Parce que nos destinées sont dans sa main. Pour ce qui est de l'éternité, oh, Jésus a dit ce qui suit. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est une promesse du Seigneur. Voilà qui nous met en paix sur tous les plans. Voulons-nous ce soir venir au Christ tel que nous sommes, à ses pieds, pour lui dire, Seigneur, je me reconnais pécheur devant toi. Je te le confesse, je m'en repens. Seigneur, je veux maintenant te faire confiance. Je veux vider mon cœur. En France, tous les soirs, on sort un sac poubelle. Hein. Ça, c'est bon aussi pour nous chrétiens, parce que, vous savez, on en ramasse des choses chaque jour aussi. Hein. Alors, tous les soirs, on met un sac poubelle à la porte. Hein. Mais vous en avez qui n'ont jamais réglé le problème de leur péché. Ceux-là doivent ce soir le faire. Et pour ce qui est de nous chrétiens aussi, nous avons eu une journée difficile peut-être, nous avons une poubelle à sortir, nous avons quelque chose à mettre aux pieds du Seigneur. Oh, venons à lui, qui que nous soyons, mais surtout, si nous sommes encore perdus ce soir, recevons le pardon de nos péchés à partir de notre repentance. Prenons la main du Sauveur dans la foi, parce qu'il nous aime comme personne ne nous aime, et commençons avec lui une nouvelle route vers un nouvel horizon, en marche vers le ciel. Quelle bénédiction! J'aimerais vous en donner l'occasion. Nous allons maintenant verser dans un moment de silence, de recueillement, dans lequel je vais dire une prière simple que vous allez reprendre après moi, mais silencieusement en vous, phrase après phrase, personne ne vous entendra. Et sitôt cette prière dite, Vous l'aurez prise comme si elle était la vôtre. Une fois cette prière dite, je demanderai à ceux qui réellement l'auront prononcée après moi, de tout leur cœur, de me le faire savoir simplement. Comment ? Par un geste, un simple geste, là où vous êtes assis, votre main, une seconde, pas une minute, montera. Mais pourquoi est-ce que je demande cela ? Je voudrais vous aider. Je voudrais vous aider. Je voudrais prier pour vous. Je voudrais vous porter au Seigneur. Simplement, dans une prière que vous n'entendrez pas, je verrai votre main et intérieurement, je prierai pour vous, disant « Seigneur, bénis-le, cet ami, bénis-la, cette chère dame, sauve-les, pardonne leurs péchés, qu'ils rentrent chez eux en paix avec toi, dans un repos intérieur qu'ils n'ont jamais connu. » Jésus vous dit ce soir, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Qu'allons-nous faire ?